Bienvenue à Objectif Numérique, 10e épisode, messieurs.
Woohoo, 10 épisodes!
Je crois qu'on peut célébrer. Cheers! Santé!
On lève
santé.
Notre verre.
Attention, on va...
Oui! Et voilà.
Qui l'aurait cru? 10 épisodes.
Oui.
Dans cet épisode-ci, nous aurons droit à la critique du Fujifilm X10 de la part de Christian qui a pu le tester. Deuxième appareil Fujifilm, de suite.
En effet.
Et on va aborder d'autres sujets. J'ai quelques nouvelles. On a une question d'un auditeur.
Oui. Moi, j'ai une caméra de 570 millions de pixels, donc je vais vous parler.
Oh,
j'en dis pas plus.
Intéressant.
Juste ça.
Et on va parler d'autres petits trucs aussi. On va enclencher tout de suite parce que maintenant, on a un nouveau format d'épisode un peu plus court, mais un peu plus fréquent. On va essayer encore de tourner peut-être dans les 40-45 minutes. Et on va y aller tout de suite avec la question de Dotseb Leclerc. En fait, Sébastien Leclerc qui nous a écrit sur Twitter et j'avais perdu sa question dans mes notes. En fait, je l'avais mis dans la mauvaise catégorie de notes. Et je l'ai retrouvé en préparant l'émission.
Sébastien va être content.
Et voilà. Donc, il demandait quelle est la durée de vie d'un appareil photo, d'un déclencheur ou en fait du mécanisme du miroir, je présume. Et François, je vais te laisser.
Bien, dépendamment de l'appareil, ça va être entre 100 000 et 150 000 déclenchements. On parle d'un chiffre là, en moyenne. Mm-hmm. Évidemment, il y a toutes sortes de types de photographes. Il y en a qui vont prendre une photo de temps en temps, puis d'autres qui vont se mettre ça en mode rafale, puis comme Christian qui fait des photos chaudes dans son studio,
il prend 5
il va te faire
photos,
des rafales à la fenêtre.
Voyons, c'est pas parce que ma caméra a 2 ans, puis elle a à peu près 40 à 50 000 photos déjà prises que c'est tant que ça, voyons.
Non, pas du tout.
Fait que je me suis amusé à faire un petit calcul. Je me suis dit, OK, on va voir combien de déclenchements par jour ça prendrait pour arriver à 150 000.
À 100 000.
À 100 000. Donc, à 100 000, il faudrait faire 55 photos par jour pendant 5 ans.
À tous les jours. Sans exception.
Oui, bon.
c'est
il y a 7 jours par semaine. Hein, fait que, ça fait beaucoup de photos, ça. Fait que, bon, je pense que la grande majorité des gens vont même pas se rendre à ce chiffre magique-là de 100 000.
Mais la grande majorité des gens vont probablement même changer leur appareil photo avant 5 ans.
En 5 ans, de plus en plus, un appareil devient obsolète après... C'est comme un téléphone, c'est comme un ordinateur. Après 3-4 ans, là, on est complètement là, out.
Ça a pris 2 ans avec mon XSI avant d'opter pour le 60D. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'étais au Comic-Con l'année dernière, donc en 2011, et au bout de 300-400 photos, ça faisait même pas 3 semaines que j'avais l'appareil, le déclencheur a cessé de fonctionner.
Bon.
Donc, on a beau dire c'est 100 000, ça a pris 400 photos, ou mettons un peu plus, là, mais je me suis pas rendu à 1000 avec mon appareil neuf.
Ouais. Ça reste de l'électronique qui peut arriver n'importe quoi, n'importe quand.
Donc, mécanique aussi, mécanique. Il y a de la mécanique dans un miroir. Comme si Sébastien, ta caméra, c'est une caméra DSLR, c'est électronique et mécanique le système. Mm-hmm. Si on a un point and shoot, c'est carrément juste un petit truc...
électronique.
Ouais.
Comme les caméras pro, ce qu'on disait, toi tu disais 100 000, ça c'est pour les caméras ordinaires. 150 000, c'est les prosumer, qui est comme, mettons, comme la 7D. Puis les caméras de pro, c'est 250 000. Fait que tu disais, c'était quoi, 55 pour 100 000?
55 photos par jour.
Fait que si on fait le double, ça fait 110 plus la moitié...
Mettons
125
photos
à peu
par
près,
jour pendant 5 ans.
Pendant 5 ans. Même pour un photographe professionnel, c'est quand même pas mal, là. Ouais, c'est pas si pire que ça, là.
Ouais, puis tu sais, le photographe, il travaille pas 7 jours semaine.
Non, non plus.
Fait que Sébastien, je m'en ferais pas pour ton déclencheur de caméra.
Dans une utilisation normale ou en vacances, dans les soirées, peu importe.
Je dis pas si t'es photographe aux Olympiques, là. Disons que ils doivent en prendre une puis une autre, photos,
en
là.
Mode rafale,
en mode rafale, ça doit être assez phénoménal.
Si tu veux parler d'eux autres, ils ont 4 caméras eux.
En plus.
Pour la téléphoto, une pour la grand angle, une pour l'objectif de portrait, et c'est fou, là. Ils traînent tout ça sur eux. Là.
Et il y en a qui traînent seulement un iPhone.
Et il y en a qui traînent, l'avez-vous vu? Je pense que je l'avais mis sur Objectif Numérique, qui est la vieille caméra qu'un des photographes avait amenée aux Olympiques. Là. Quand on parle de vieille caméra, là, c'est ancien, là. J'ai vu totalement ça ancien. C'est assez impressionnant. Il a réussi à prendre des photos avec ça, puis c'est quand même pas pire.
Ben, on le remettra dans
les notes. Je le remettrai s'il faut dans les notes.
Ouais, je vais le prendre en note.
Fait que Sébastien ne craint point.
Non, il n'y a pas de danger là-dessus.
Parfait. Maintenant, on va enchaîner avec quelques petites nouvelles. Et je vais y aller avec Canon qui lance le projet 1709. Le projet 1709, en fait, c'est une version bêta là, qui est enclenchée.
C'était pas le nom de l'entreprise Enterprise, là, Star Trek NCC 1709?
Oh, y a-t-il un lien? Bonne question.
C'est pas 1701?
C'est le moitié geek en moi là, qui se demande la question. Là.
Honnêtement, j'ai pas assez suivi Star Trek. Je suis plus un.
La première série de Star Wars. Des années 60.
Oui, mais je remarquais pas ces détails geeks là, bon, à l'époque.
Bon, mais,
en fait, dans les années 60, j'étais pas né.
Non,
en effet, quand même.
Moi non plus, mais j'ai écouté de la série. Que tu. Excuse que je t'ai coupé, Christian va regarder l'information sur sa superbe tablette.
Parfait. Oui, la Google Nexus 7. Donc, le projet 1709, c'est une espèce de plateforme un peu comme Picasa ou Flickr. Ça permet de créer des albums en ligne, de suivre peut-être la trame historique des photos qu'on a prises. Mais on ne sait pas trop où Canon veut s'en aller avec ça. Il n'y a rien vraiment d'annoncé, en fait, de détail. On a un aperçu qui nous donne une impression d'un clone de Flickr, disons, peut-être avec un peu plus de une interface un peu plus léchée, là. Mais on voit toute l'information, tout l'exif dont on parlait à l'épisode 8, mais il n'y a pas plus de détails que ça pour le moment.
En fait, ils veulent mettre leurs pieds dans l'univers, finalement, des photos en ligne.
Oui.
Ils veulent peut-être se diversifier aussi.
Probablement.
Ouais. J'imagine que ça va fonctionner, mettons, comme avec la Canon 6D qui est Wi-Fi, va probablement pouvoir uploader directement à cette
Il faudrait, hein?
Ouais. Ben, on espère, on sinon s'entend. Ça serait un peu ridicule. Là.
C'est ça. Probablement qu'il va y avoir des trucs avec les appareils photo Canon qui vont simplifier la mise en ligne là, des clichés qui sont pris avec ces appareils-là, qu'ils soient Wi-Fi ou non, dans le fond, ou avec une carte Hi-Fi dont on parlait au dernier épisode.
Oui, tout à fait.
Donc, peut-être.
Et petite parenthèse, malheureusement, François, c'est la NCC 1701. Ah. T'étais pas loin, c'est pas tout à fait la bonne chose. C'est ça l'Enterprise.
J'avais juste 8 de différence.
Eh oui, j'étais pas loin. D'ailleurs, le nom, à ce moment-là, j'ai aucune idée pourquoi ils ont choisi un nom comme ça, 1709. C'est prévu pour 2013.
1701.
Non, la plateforme, c'est 1709.
Ah, ouais, je pensais que t'étais avec Star Trek encore.
Mais non, ben là, l'Enterprise, c'est peut-être... c'est un détail, là.
Ouais.
Mais Canon, qui appelle ça Projet 1709, et qui veut lancer ça en 2013, j'ai pas réussi à trouver de lien entre les chiffres.
Sur le site, il n'y a pas d'informations là-dessus.
Ah, ben, et d'ailleurs, même le site Engadget, tu sais pas trop où Canon s'en va avec ça.
Ah, le bon côté, le côté mystérieux du marketing. Oui, des fois, ça pogne. Des fois, on attrape le monde avec ça.
Mais... parlant de Canon, moi j'ai hâte de voir la Canon EOS M, de l'avoir entre mes mains. Les caractéristiques semblent intéressantes, mais bon, je me demande sérieusement pourquoi Canon a choisi de vendre son appareil 50$ plus cher que le Nikon 1J2, qui est la nouvelle version. Il y avait le J1 l'année dernière. Parce que, bon, avec le EOS M, on a un objectif fixe à 22 mm, qui donne un équivalent à 35 mm là, en plein capteur. Alors que Nikon offre de son côté un objectif à focale variable 10 à 30 mm. Je me dis...
Il y a beaucoup de décisions étranges avec cette caméra-là. Je sais pas trop où c'est qu'ils s'en vont, moi non plus, j'avoue. Ils sont arrivés très en retard dans le marché, puis... Je sais pas.
Nikon en est déjà à sa deuxième version. Eux, ils en lancent une première, plus chère, mais avec un objectif fixe. En tout cas, je sais pas trop, mais on va suivre ça de près parce que...
Il y a l'adapteur qui nous permet de mettre les lentilles... on peut mettre notre 24-105 dessus, ça doit être super commode.
Absolument. Non, mais... Ouais, mais ça fait une dépense de plus.
Je sais pas. Je trouve étrange la décision, sincèrement.
On verra. C'est certain que je vais l'essayer et je vais essayer aussi le Nikon 1J2. Ça, c'est officiel. J'ai vraiment envie d'essayer ce petit appareil-là. Donc, dernière nouvelle, il y a Olympus qui a rendu récemment disponible la version 1.5 du micro-logiciel de son appareil OMD EM5. un autre appareil au look rétro, un peu dans la même veine que le Fujifilm X100. Bon, la mise à jour, là, rapidement, comprend la réduction des sons lors des opérations en mode photo ready, pour ceux qui connaissent l'appareil. Il y a une optimisation de la stabilisation sur 5 axes. Ça, c'est une caractéristique intéressante de cet appareil-là. La stabilisation est sur 5 axes. Donc, bon, en fait, c'est lorsque des objectifs OM sont utilisés avec un adaptateur, mais ça fonctionne aussi en mode vidéo. Donc, c'est intéressant pour ça.
Ouais, ouais.
Et bon, toutes les améliorations contenues dans la version 1.2 sont aussi présentes pour ceux qui n'auraient pas fait la mise à jour déjà à la version 1.2. Donc, François, maintenant, va nous parler d'un appareil photo qui prend des gros clichés.
Oui. Est-ce que ça vous intéresserait si je vous disais qu'il y a une caméra qui a été produite à 570 millions de pixels de résolution?
Oui. Est-ce que je suis prêt à la payer, par contre? Je ne suis pas sûr.
Je ne sais pas si tu as la place, par exemple.
Non, je ne sais pas. Ah oui, ça doit être gros. Ça doit être minuscule.
Oui, c'est une assez grosse caméra. En fait, elle contient 62 capteurs de 8 mégapixels chacun.
Ben, à quoi ça sert?
Oui, ben ça, c'est une très bonne question, mon cher Stéphane. Alors, c'est une caméra pour prendre le ciel. C'est une caméra pour faire de l'astronomie. Mais pas n'importe quel astronome, là. On parle d'une caméra qui est installée au Chili sur un sommet, je ne me rappelle pas, je pense que c'est Blanco. C'est un des observatoires où le ciel est le plus clair sur notre belle planète. Donc, c'était un endroit de choix pour installer cette caméra-là.
Il y avait ça ou le Mont Mégantic, mais ils ont finalement opté pour le Chili.
Oui, c'est ça. C'est... En fait, après un concours, on a décidé que c'était au Chili. Puis, à quoi va servir cette caméra-là, d'après vous autres?
Ben,
tu l'as dit, filmer le ciel.
Oui, mais elle était, c'est vraiment une nouvelle caméra, un nouveau type de caméra qui va prendre des photos dans le spectre, dans la couleur rouge du spectre.
OK.
Pourquoi? Parce que, imaginez-vous donc qu'il y a des scientifiques qui se demandent encore pourquoi. Puis là, je tombe dans le côté là, genèse de l'univers scientifique. Vous savez pas mal tous que l'univers est en pleine expansion, on l'entend souvent. Depuis les années 90, en fait, il y a des scientifiques qui ont découvert que l'univers était non seulement en expansion, mais l'expansion s'accélère. Ça a été prouvé. Là, maintenant, si on se fie à nos connaissances d'aujourd'hui, l'univers ne devrait pas accélérer en expansion.
Non.
Devrait se rétracter. Pourquoi? À cause de la gravité. Donc, c'est une question qui est vraiment mystérieuse, que les scientifiques essaient d'expliquer. Si l'univers est toujours en accélération, d'expansion et non en rétraction, il y a une raison, il y a une force invisible qui crée ça. Il y a quelque chose. Donc, cette caméra-là a été carrément fabriquée pour pouvoir essayer de trouver quelle est cette force qui est appelée l'énergie noire. Donc, cette
Et non
superbe...
pas l'étoile noire.
Non, pas l'étoile noire. L'étoile noire, elle doit être loin en tabarnouche.
Oui, oui, quand même.
Mais peut-être qu'ils vont la trouver avec cet appareil-là.
Peut-être qu'ils vont la trouver. En tout cas, avec les avancées qu'on a vues dernièrement, moi, M. Baumgartner qui a sauté de l'espace, je ne sais pas si vous avez regardé ça. Là, je fais un petit aparté comme ça. C'est quand même quelque chose. Là,
tout t'sais. À fait.
Ceci étant dit, il y a un gars qui l'a fait 60 ans avant lui, quand même. Là.
Oui, par malchance.
M. Kissinger. Je pense pas que c'était par malchance.
Ah non, c'est parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui était dans un U2 à je sais plus trop combien de milliers de pieds d'altitude qu'il a fallu qu'il tombe. Parce que le U2 a eu un problème, qu'il a fallu qu'il tombe en parachute. Ben, qu'il saute en parachute, excusez.
Ah, OK.
Puis je sais plus trop c'était quoi la hauteur, mais il me semble que c'était pas très loin.
Bon. Ben,
mais bon, je divague.
Lui, c'est quelque chose.
Oui, oui.
Donc, bon, juste pour vous parler un peu de la technique, un petit peu de cette caméra-là, parce qu'elle est très, très, très spéciale. D'ailleurs, elle ne peut pas servir à autre chose que ça. Là. Quand on dit qu'on prend des photos dans la couleur rouge du spectre de couleurs, c'est assez pointu.
Mais tu parlais qu'il y avait 62 capteurs, donc on présume que chaque capteur a la même...
Oui, c'est tous des capteurs de 8 mégapixels. Okay. À peu près le même capteur qu'on a dans nos caméras, à la différence, évidemment, qu'ils sont beaucoup plus sensibles. Ils sont vraiment faits pour capter le plus de lumière possible. Donc, chaque pixel de ce capteur-là va absorber plus de lumière pour avoir moins de bruit en bout de ligne.
On tombera pas trop dans le technique, mais c'est ça, les photocytes, je pense, sont plus grands que sur un capteur normal.
Oui, c'est carrément quelque chose de même de très technique qu'on veut pas trop embarquer. Puis j'avoue que dans ma recherche, je me suis pas trop cassé la tête à vouloir expliquer
non,
c'était
non,
quoi.
Non, mais déjà, l'appareil
c'est
en
déjà
soi
intriguant. Est... Ouais.
Oui, c'est ça. Peut-être que parce qu'on va juste dans la couleur rouge aussi, qu'on peut se permettre quelques avancées technologiques aussi, tu sais, dans le pixel. Tu sais, on n'est pas obligé de gérer certaines lumières ou filtrer certaines lumières, tu sais. Donc, c'est composé de 70 capteurs. Comme je disais, il y en a 12 qui sont de 4 mégapixels qui servent juste au guidage de la caméra parce que il faut faire la mise au point et l'alignement parce qu'évidemment, hein, la Terre tourne, le ciel n'est pas stable. Donc, il y a 12 capteurs qui servent juste au tracking, si on peut dire, de la photographie. Alors, c'est voilà. Si ça vous intéresse d'acheter une caméra comme ça, ben il faut aller chercher au Chili et convaincre les astronomes.
La
grosseur, c'est environ une cabine téléphonique.
Okay. Oh, pas plus que ça. Okay.
Pas plus,
je
que ça.
Plus que ça.
Ben, quand même, ça se
non, c'est gros,
ça
là.
Ça se transporte pas si facilement.
Non,
que ça.
Mais je sais pas, j'avais comme l'impression, tu sais, on voit avec les télescopes, les choses, peut-être que ça serait plus gros que ça, tout ça, mais c'est pas si mal.
C'est pas si mal, mais quand t'arrives pour embarquer dans l'avion, les frais d'excès de bagages. les frais sont assez astronomiques.
Oh là là! Mais bon, c'est ça. On s'imagine une photo en format RAW qui sort de cet appareil-là.
Ça, c'est une bonne question. Dans quel
500
format
quelques
sont les
mégaoctets, probablement.
C'est à ça qu'elle sert la carte SD qu'on a parlé au dernier épisode.
À 256 gigs, on peut prendre 3-4
photos.
Une cinquantaine, je dirais.
Par capteur.
Mais donc, parfait. On va... comme d'habitude, pour publier le lien là, dans les notes d'épisode parce que le lien est un petit peu long. On passe maintenant à la fameuse critique du Fujifilm X10 avec Christian qui a eu le plaisir, je crois, de l'utiliser pendant quelques semaines.
Oui, exact. C'est le petit frère, dans le fond, de la X100 qu'on a parlé il y a deux épisodes. Mm-hmm. J'avoue que bon, si on la voit déjà en partant, en regardant le design, c'est évident que, comme je disais, que c'est le petit frère. C'est un design relativement assez rétro. Encore une fois, qui a fait pas mal l'unanimité avec tout le monde à qui je l'ai montré, tout ça, et qui trouvait que c'était assez joli. Une grosseur correcte. Je dirais pas qu'elle est petite, mais elle se glisse quand même dans une poche, ce qui est quand même un avantage. Il y a un détail qui est particulier de cette caméra. J'ai cherché comment l'allumer pendant... je pourrais dire un certain bout de temps. Il n'y a pas de bouton.
Pas de bouton de mise en marche.
Non.
Bon.
Non. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prend l'objectif et on le tourne pour démarrer l'appareil.
OK.
Je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié ce mécanisme-là. Parce que l'avantage, c'est qu'on ne peut pas la déclencher quand on ne veut pas. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est très naturel. Quand tu le sais, faut-il bien spécifier. Ouais. Ça permet de rétracter l'objectif au minimum, ce qui prend moins de place. Mm-hmm. Pour ça, j'avoue que c'est bien. Les boutons sont un peu comme la X100, l'emplacement, les choses, etc.
Est-ce que la molette est aussi...
Non. Non, elle est beaucoup mieux que l'autre. Elle est quand même un petit peu lousse, mais pas au même degré. Okay. J'ai pas eu la même frustration qu'avec l'autre. L'autre, je passais très, très, très souvent. Pas elle. Mm-hmm. Puis, en tout cas, de la façon que la caméra est faite, j'en suis moins dépendant. Fait qu'on dirait que ça dérange moins.
Okay.
Pour le reste, on parle d'un capteur de 12 mégapixels. 12 mégapixels, c'est pas ce qu'il y a de plus...
C'est dans la norme où c'est presque devenu le minimum là, sur un appareil de quelques centaines de dollars.
Exact.
Aujourd'hui.
L'avantage majeur, par contre, c'est que le capteur en tant que tel est plus gros que les plus petits, que les point and click. Parle pas énormément, là, mais tu sais, la diagonale en général c'est 7 mm, celui-là il est 9.
Okay.
On est quand même loin d'un capteur de 4 tiers ou d'un capteur DSLR, mais c'est quand même intéressant. Ça paraît, je dirais que la qualité visuelle est très bonne. J'ai été très satisfait de mes photos, tout ça. J'ai pas remarqué d'aberration ou de déformation ou rien de ça. Okay. J'avoue que de ce côté-là, l'appareil livre bien ce qu'il promet, dans le fond. La particularité aussi de l'objectif, c'est que, bon, contrairement à notre X100, qui était un objectif fixe, on parle d'un objectif avec un zoom de... l'équivalent d'un 28 à 112 mm.
Okay.
Moi, je trouve que c'est quand même assez respectable. C'est pas énorme, mais c'est mieux que de pas en avoir.
Mm-hmm.
Surtout pour une petite caméra comme ça. Là où il est très, très bon, c'est que notre ouverture passe de 2 à 2.8.
Oh! Fait que l'ouverture reste quand même assez quand grande. Même, là, même
assez
à...
grande. Ouais, ouais, ouais. L'avantage majeur d'une ouverture très grande comme ça, c'est qu'en basse luminosité, ben nos photos vont s'apparaître, ils vont s'en sortir avec des meilleurs, tu sais, beaucoup moins de bruit, etc. Parce que à des vitesses équivalentes, on a quand même une plus grande ouverture.
Mm-hmm.
Donc, on peut jouer beaucoup avec ça. Moi, j'ai trouvé en tout cas que c'était assez surprenant. La performance ISO, à 800, le bruit est correct. Même peut-être plus que correct. Il est au-dessus de la moyenne. Je dirais qu'à 800, là, c'est très utilisable comme photo. Encore une fois, là, on parle pas de photos à faire à grand déploiement ou rien de ça, mais pour Internet, ça, c'est très respectable. 1600, un petit peu moins. Mais pour dépanner, parfait, par exemple. Ça fonctionne très, très bien.
Puis c'est quoi l'ISO maximum là-dessus?
3200.
OK.
On peut l'étendre à plus que ça, mais...
Ouais, c'est jamais recommandé d'aller dans les modes étendus là, d'ISO qui peuvent aller... Si l'appareil arrête normalement à 3200, mais qu'on peut se rendre même à 12800, ça donne pas grand-chose.
Non, j'ai... Peu importe la caméra, j'ai jamais vu des résultats qui avaient du bon sens. Quand tu fais des montres, quand tu l'étends, c'est pour dépanner. Puis même dépanner, encore... là, je dirais, là, je vois pas l'utilité. L'autre chose qui est intéressante, c'est que, bon, contrairement à la X100, il n'y a pas les contrôles sur le dessus pour manuel de vitesse ou de l'ouverture. Par contre, c'est une petite molette à l'arrière qu'on tourne de droite à gauche.
Mm-hmm.
Quand on le met en mode manuel, par exemple, quand on tourne la molette une première fois, on ajuste l'ouverture. Fait qu'on passe de 2, 3, 4 à 8 à whatever. Et on pèse sur le bouton. Et après ça, on peut ajuster la vitesse.
Okay.
Très, très, très naturel. J'ai trouvé que c'était un mode de fonctionnement très efficace, très bien fait.
Rapide.
Rapide. Ouais, ouais. Franchement, là, j'avoue que Fuji, là-dessus, ils ont vraiment fait leur devoir. C'est un très, très bon mode.
Parfait.
La caméra, en tant que telle, est assez rapide aussi à démarrer. Encore une fois, là, j'estime à 3-4 secondes le temps de démarrer la caméra, prendre une photo. C'est très, très respectable. Je pense que tu sais, normalement, là, c'est le genre de photo, de caméra qu'on peut traîner un peu partout. Mm-hmm. Puis on peut prendre des photos rapidement, là, puis c'est pas particulièrement un problème.
En passant, je vais faire juste une petite parenthèse parce qu'on parlait d'ISO minimum 2 à 2.8, F2 à F2.8. C'est toujours, en fait, l'ouverture maximale utilisable quand on joue avec l'objectif, avec la distance focale.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, juste pour éclaircir ça, pour les gens qui seraient c'est moins familiers un peu avec la notion, c'est que si on a un objectif 70-200, ben, ou comme celui-là, c'est 28-112?
Oui,
c'est ça.
Donc, si on est à 28 mm, on peut ouvrir jusqu'à F2. Et si on est à 112, on peut ouvrir quand même jusqu'à F2.8, ce qui est grand, là, ce qui est une grande ouverture.
Ben, c'est même pas un cran entre les deux.
C'est ça.
C'est même pas un cran. Puis on va donner un exemple, mettons comme l'objectif qui est avec à peu près tous les DSLR, la 18-55. Si ma mémoire est bonne, c'est 3.5 à 5.6.
Ouais,
c'est pas loin de deux crans rendus à ce point-là. Là.
Déjà 3.5, c'est pas très grand.
C'est
là.
Pas. Non,
à
c'est
18
pas.
18 mm, 3.5, c'est.
Il n'y a pas énormément de luminosité. Puis comme je l'ai déjà dit, quand on dit des crans, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque cran, on a le double de lumière.
Oui.
Fait que quand on perd presque deux crans...
C'est presque le quadruple. Tu sais, on perd
quatre fois la lumière qu'on avait.
C'est énorme.
Ça paraît, là. C'est énorme. On peut aussi prendre 7 photos à la seconde.
Wow, c'est bien.
C'est très bien. 10 si on va à un mode 6 mégapixels au lieu de 12. J'avoue que je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, on a
c'est
l'option.
Oh,
c'est toujours intéressant
d'avoir
une option.
Si on sait qu'on s'en va sur le web avec la photo, pas besoin d'aller à 8.
Vrai. Tout à fait.
12, je veux dire.
Tout
à fait. 6, c'est amplement suffisant.
Mm.
J'ai trouvé que l'autofocus était rapide, efficace. Peut-être même quasiment plus que celui de la X100. Étonnamment, j'ai été très agréablement surpris de l'autofocus. Comme je disais, très rapide. C'est surprenant, là, mettons qu'on prend la caméra, puis on la tourne rapidement, on prend une photo, puis il s'ajuste là, très rapidement.
OK.
Ça, c'est un de ses points forts même, je dirais, l'autofocus. Dans ce que j'ai... Sans dire que c'est négatif, mais je dirais moyen, les performances moyennes. Bon, comme je disais, un peu gros. C'est pas ce qu'il y a de plus discret, de plus petit, facile à traîner, mais c'est correct. C'est pas...
Ouais, c'est pas un appareil compact, non. Mais c'est pas un DSLR non plus. C'est exact. Vraiment entre les deux, moi, je trouve.
Oui, tout à fait. Le viewfinder,
le viseur,
l'utilité, là, est très, très, très réduite. Moi, j'avoue que je l'ai jamais utilisé. Je n'ai utilisé que l'écran.
OK.
De un, en partant, il est juste 85% de l'image.
OK.
C'est pas fameux.
C'est un viseur qui est au travers de la lentille?
Même
ou c'est
direct? Non. Il est direct. Fait que c'est pas... moi, j'ai pas vraiment vu l'utilité. Je l'ai essayé de l'utiliser quelques fois, puis comme j'ai déjà mentionné dans ma critique de la X10, en plus que de la X100, ce que moi j'aime pas, c'est qu'il est sur le côté versus le milieu. Fait que je sais pas, j'ai comme un petit peu plus de misère avec ça.
C'est rétro, là.
C'est rétro. Ouais. Je sais que c'est rétro.
Ça peut être pratique dans un cas où il y a un gros soleil, je sais pas, à la plage, là, dans le sud, où quelqu'un en vacances va peut-être préférer regarder dans le viseur parce qu'au moins il va voir qu'est-ce qu'il essaie de photographier.
Tout à fait.
Versus un écran qui a des reflets.
Il peut avoir aussi une raison d'économie de batterie.
Oui. C'est sûr.
Si on arrive à la fin de la batterie, ben on enlève l'écran puis on y va à l'ancienne.
Ouais.
On peut sauver une couple de clichés, là. Ça consomme quand même
pas mal. C'est sûr. Ça peut dépanner, là. Je dis pas qu'il est inutile, mais...
Oui, mais t'as trouvé ça moins pratique.
Moi, je l'ai pas utilisé. Sincèrement, je l'ai pas utilisé. J'ai pas trouvé ça très, très commode à utiliser.
Mm-hmm.
Par contre, en contrepartie, l'écran, il est ordinaire.
OK.
Il est pas énorme. 2,8 pouces, c'est pas... 460 000 points. C'est il est ordinaire. Il est correct, là. Je veux dire, on le regarde, il n'est pas mauvais, mais rapidement, on voit qu'il n'est pas très... c'est quoi le mot
défini?
Que je cherche? Ouais, non, les couleurs sortent correctes, mais tu sais, c'est pas éclatant. C'est ça que je cherchais. Il n'est pas super éclatant, il n'est pas phénoménal. On n'est pas impressionné en le voyant. Ouais. C'est correct, fonctionnel, mais...
Sans plus.
Sans plus.
Okay.
Veux pas... On est limité parce que, on n'a pas un capteur super gros avec la lentille. Fait que c'est sûr et certain que attendez-vous pas à faire un effet de profondeur de champ incroyable ou rien de tout ça, malgré le fait qu'on se dit, on a un objectif à deux, mais c'est le capteur qui limite dans
plus,
ce cas-là.
Plus le capteur est petit,
plus grande est la profondeur de champ.
Oui, c'est ça, exactement.
J'ai été capable de faire quelques affaires intéressantes, là, mais c'est pas... Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. De ce côté-là, là, c'est si vous voulez prendre des clichés, se promener dans une ville, faire du tourisme, ça, c'est parfait. Artistique, c'est pas vraiment la vocation de cette caméra-là. Mm-hmm. C'est pas avec ça que vous allez pouvoir faire ça. Le prix, sans dire qu'il est négatif, 500$, je sais pas.
C'est peut-être juste un petit peu trop pour...
Pas énormément, exemple. C'est peut-être un 50$. Peut-être 100$ de trop. C'est parce que si on compare qu'on peut avoir un micro 4 tiers qui a un capteur plus gros, des meilleures performances en général sur bien des facteurs, je sais pas. Par contre, le micro 4 tiers, le problème étant souvent l'objectif étant gros, on peut pas vraiment traîner ça dans une poche, moins commode, tout ça. Regarde, ça dépend des goûts, des attentes, de qu'est-ce que vous voulez. Ça se défend. C'est pour ça que je l'ai mis entre les deux, parce que c'est correct, mais ça pourrait être mieux.
Ouais.
Fait que c'est pas... Dans le mauvais, maintenant. La pile.
Ah.
Pas fameux. Vraiment pas fameux. 270 photos avec une pile, c'est pas... pas impressionnant. C'est vraiment pas impressionnant.
Okay.
C'est sûr que, c'est surtout avec l'écran, je dis pas le contraire, mais encore une fois, tu sais... Moi, c'est mon expérience. J'ai regardé, j'ai fait les vérifications à l'Internet, etc. Puis ça tombe pas mal à ça. Même sans l'écran, c'est rarement bien plus que ça.
Okay.
Peut-être 300, mais je trouve pas ça énorme. Personnellement, là, c'est pas... ça pourrait être mieux. Fait que si vous décidez d'acheter la pile supplémentaire, c'est pas mal obligatoire, je dirais. Le mode vidéo est assez médiocre. Fonctionnel. Il n'y a rien de spécial. Ça fonctionne. Il est facile à utiliser ou quoi que ce soit. La qualité visuelle est pas... c'est pas impressionnant.
Okay.
C'est vraiment pas super impressionnant.
Est-ce qu'il fait la mise au point automatiquement en vidéo?
Non. Fait que c'est pas... Il y a une expression en anglais qui dit « bare bones », là. C'est le strict minimum.
Il n'y a pas de viande autour
de l'os. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas rien. Tu sais, c'est correct, là. Pour dépanner, ça va. En autant que vous attendez, vous n'avez pas des attentes très élevées, oui. Ça va faire le travail. Mais de ce côté-là, là, c'est pas vraiment fond.
On regarde, admettons, mon utilisation à moi de mon appareil photo, c'est principalement pour la photo. Et la vidéo, c'est pour quelques moments pour avec dépanner. Les enfants, pour dépanner. Le 60D fait de la très belle vidéo. Mais c'est pas c'était pas un facteur au moment de l'achat.
Non, exact. Puis pour beaucoup de monde, ça le sera pas. Ça le sera pas. Mais je me suis dit quand même que c'est important de le mentionner parce qu'il y en a qui aiment ça, avoir ce mode-là. Mm-hmm. Puis bon, on a malheureusement les mêmes menus que la X100, donc pas fameux. J'aime pas beaucoup l'organisation des menus de Fuji.
Il faut défiler
vraiment
longtemps, je pense, dans les...
Exactement. Là, dans les on a comme juste deux sortes de menus, puis il y a 6 pages de menus. C'est pas... Ça pourrait être mieux organisé que ça, à mon opinion. Puis, encore une fois, je me suis dit, c'est juste moi, parce que ça, on s'habitue avec, tu sais, notre caméra, puis tout ça. Fait que je suis allé voir un peu les opinions du reste du monde, puis pas mal tout le monde est d'accord avec ça. Pas efficace, qui déroule pas vite. Ça a été pas mal les choses que j'ai lues le plus souvent. Fait que... Là-dessus, il y a du travail à faire, d'après moi.
OK.
Il y a une petite dernière chose aussi, par exemple, que j'ai pas mentionné qui est intéressante. La caméra, on peut prendre des photos en RAW avec.
OK.
Pour des photos, pour des caméras de ce prix-là, c'est pas pire normal, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, bon, plus de capacité. Par contre, le mode RAW, le logiciel qui vient avec, il fait vraiment pas un bon travail pour les exporter.
OK.
Il faut qu'on peut les convertir directement dans l'appareil, ce que je conseille, puis ce qui a été fait. Et un détail très important, c'est un détail, ce n'est pas de la faute de Fuji, c'est de la faute d'Apple, mais c'est chiant. Aperture n'est pas compatible avec la caméra.
Oh.
Ça, j'ai trouvé ça très, très, très fatigant. Il a fallu que je retourne avec Lightroom parce que aucune façon de sortir les RAW de la caméra, ils ne les voient même pas.
OK.
Fait que là, c'est là qu'il faut que tu utilises le logiciel de Fuji qui ne fait pas une très bonne job. Les photos JPEG sont beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes que les RAW, ce qui n'est vraiment pas supposé d'être le cas. Alors, non, il n'y a rien. C'est vraiment étrange par rapport à ça. Le logiciel n'est pas comme pas au point. Là.
Mm-hmm.
Quand je les ai importés directement dans Lightroom, par contre, j'ai pas eu le problème. Ça, là, ça a bien été. Fait que je me suis dit que c'était quand même intéressant de le mentionner. Là. Fait que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié la caméra. Je pense qu'elle fait ce qu'on lui demande de faire à un prix correct. Moi, j'y donnerais une cote or parce que moi, je suis du genre à croire que, en principe, un critique devrait aimer tout et critiquer quand ça marche pas. Or, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle le fait.
Mm-hmm.
Donc, j'ai pas de raison de lui de la descendre vraiment parce que ce que j'ai à dire, c'est des peccadilles contre. C'est pas quelque chose qui est majeur, qui empêche le fonctionnement de l'appareil ou rien de ça. Fait que je considère que c'est un bon appareil.
Qui en donne pour le prix. Qui est...
on
en
à mon opinion, on en a pour son argent avec ça. On en a pour son argent. On en aura encore plus pour son argent, un peu moins cher, mais c'est pas toujours le cas de toute façon. On prendrait pas toujours un peu moins cher pour avoir plus.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette critique. Puis d'ailleurs, petite autre mention au sujet de Fujifilm. L'appareil XE1 a remporté le prix Star 2012 là, au Salon Photokina, l'étoile du salon finalement. Donc, un produit à surveiller. Peut-être intéressant. On va sûrement vous en reparler. De toute façon, on a de très bonnes relations avec... les gens qui s'occupent de Fujifilm, on devrait avoir d'autres appareils à vous présenter.
On a bien hâte.
Et justement, parlant des prochaines critiques, c'est pas dans l'ordre, c'est un peu dans le désordre. Je vais vous présenter bientôt le Fujifilm F800EXR, qui est un appareil compact, mais qui a l'air à en donner pas mal pour notre argent, oui.
J'ai vu... tenait un petit peu avec quand il l'avait. Il a l'air d'avoir un zoom assez impressionnant là-dessus quand même pour un petit appareil comme ça.
L'écran, en tout cas, on en reparlera, mais un écran assez clair et tout ça.
Tout à fait.
Ça promet.
Mm-hmm.
Christian, bientôt, va nous faire une critique aussi de l'Olympus, le Penlight EPL3. Évidemment, tout récemment, le PL5 vient de sortir. Mais bon, on va tester quand même le EPL3 pour ensuite faire la comparaison avec le nouveau modèle. Donc.
De toute façon, au pire des cas, c'est le genre d'appareil que, comme le nouveau est sorti, il va peut-être descendre un peu de prix, qui pourrait devenir intéressant. Oui. Fait que ça peut devenir une alternative très intéressante malgré tout.
Tout à fait. Et François va nous faire une première critique probablement au prochain épisode ou dans deux épisodes tout au plus. On va
parler de vidéo.
Oui,
oui.
Caméra sur... vidéo.
Je suis pas d'accord, c'est de la photographie qu'on fait.
Non,
je sais, t'as raison. L'un est proche de l'autre.
On n'a pas un caméraman avec nous pour parler uniquement de photographie. C'est Il faut un petit peu profiter de son talent, de son expertise. Donc, on devrait avoir une critique du Panasonic HXWA20, un caméscope... qui se tient facilement dans une main. Là. Vous allez voir, le très, 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 très bel appareil.
Ça va faire plaisir de tester ça pour vous.
Et puis, on en a un tout petit aussi, le Camileo Clip de Toshiba. Donc, pour ceux qui ont connu les petites caméras Flip de Cisco, là, ou de Flip Vidéo à l'époque, qui ne sont plus sur le marché, mais ça me rappelle un peu ce type d'appareil simple à utiliser. On l'allume, on démarre la vidéo, on l'arrête, puis on exporte... sa vidéo sans se casser la tête.
Laissez-moi-en.
Oui, d'ailleurs, on va te laisser en parler. Mais c'est un aperçu de ce qui va venir dans les prochains épisodes. Et d'ailleurs, on vous réserve un épisode, selon moi, avec un invité pour parler de vidéo. On reconfirme tout ça. Alors, merci d'avoir été à l'écoute, comme d'habitude. Toujours très agréable, messieurs. Bon, ben merci François.
Merci Stéphane. Merci.
Merci Stéphane.
Merci, messieurs. Et comme d'habitude, vous pouvez nous contacter, nous envoyer questions, commentaires par courriel à podcast@objectifnumérique.com ou encore nous écrire Facebook, Google+, Twitter, pas le temps de niaiser. Donc, sur Twitter, tout simplement, au numérique et sur les autres sites, vous cherchez Objectif Numérique. Merci et à la prochaine.